corazón, ni tiene cuerpo, ni tiene corazón.
Tropa colombiana, c'était la musique de Colombie cette fois alors, Suzanne.
C'est de la musique colombienne, donc de la cumbia, qui est très à la mode en ce moment au Nicaragua. Ça, c'est une cassette que j'ai achetée là-bas. Et c'est une des chansons les plus populaires du moment, que beaucoup de gens écoutent.
Alors, il reste un dernier sujet, évidemment, qu'on a envie d'aborder au vu de ce que tu nous as dit, Suzanne, c'est-à-dire l'après-élection. Alors, si il se confirme que l'Alliance des libéraux a gagné, il y a bien des chances, malgré l'apparente tenue en compte de fraudes éventuelles, ou en tout cas d'irrégularités, comme ils disent eux, eh bien, il y a quand même des chances que ce soit ce parti qui prenne le pouvoir à la tête du Nicaragua. Est-ce que les élections à tous les niveaux ont donné les mêmes résultats? Parce que tu nous as dit que c'était compliqué, on élisait des gens à tous les niveaux, donc communaux, de district, tu m'as dit donc
De Parlement national.
Parlement national, oui. Et puis présidentiel, le président. Alors, est-ce qu'il y a une unanimité dans ces résultats, ou est-ce qu'on sent que... Au niveau plus de proximité, comme au niveau communal, il y a d'autres résultats?
Alors en fait, il s'est passé d'abord un phénomène, c'est que les gens ont massivement voté de manière très disciplinée pour l'un ou l'autre des deux grands partis qui étaient vraiment l'enjeu. Hein. Donc il y a un parti de gauche qui est le parti sandiniste, et puis le parti de droite du moment, parce que ça change donc suivant les élections. Ce n'est pas des partis qui ont une longue histoire, comme peut-être notre parti libéral à nous. Et les pronostics avant les élections disaient qu'il y aurait beaucoup de votes croisés, c'est-à-dire que les gens voteraient peut-être sandinistes pour le président, mais après pour les parlementaires ou bien pour la mairie de leur village, ils choisiraient quelqu'un d'autre parti, parce qu'il y avait aussi des candidats valables, évidemment, dans d'autres partis. Eh bien, ce phénomène s'est très peu produit, ce qui fait que tous les petits partis secondaires sont pratiquement rayés de la carte, à part un parti qui émerge, qui est le Camino Cristiano, c'est un parti chrétien évangélique qui a un discours, disons, populiste, chrétien, mais en fait c'est un parti de droite, ce n'est pas un parti de gauche. Et puis quelques petits partis de gauche, notamment le mouvement de rénovation sandiniste, qui est donc une petite scission du parti sandiniste, n'ont obtenu que 3000 voix pour la présidence et n'auront pas un seul député élu, alors qu'ils comportent au niveau des personnes, des gens en tout cas dignes de faire partie d'un parlement. Et ce phénomène, je pense, de la discipline par rapport aux deux grands partis, bon, je ne sais pas ce qu'il signifie pour les libéraux, parce que les libéraux, ce n'est pas un parti qui a une longue histoire, qui n'a pas d'éthique, qui n'a pas de principe comme le Front sandiniste, malgré toutes les critiques qu'on peut lui faire. Il a une histoire très très forte et il représente vraiment, un projet de société. Donc ces deux grands blocs vont devoir se partager le pouvoir. Et il faut savoir aussi que le pouvoir du gagnant, quel qu'il soit, sera entaché par ces élections pas nettes. Disons que même si maintenant c'était les sandinistes par un miracle de retournement de situation qui arrivaient au pouvoir, il y aura toujours ce doute sur ces élections qui n'ont pas vraiment été nettes. Et je pense que ceci va affecter tout de suite le gouvernement de M. Aleman, c'est-à-dire beaucoup de gens qui, déjà dès le premier jour, vont se méfier de ce gouvernement, et avec raison, parce que ça a l'air tout à fait évident que c'est de ce côté-là que sont venus effectivement les fraudes et que sont venues aussi toutes les intimidations, donc soit par des groupes armés dans certaines régions reculées de la campagne, soit par des lettres extrêmement agressives dans la campagne préélectorale. Et notamment, il y a eu une lettre qui a circulé dans beaucoup de villes qui disait « Nous allons gagner ces élections et du jour où nous aurons gagné, c'est un appel à la population, vous devez immédiatement dénoncer tous les sandinistes de votre quartier parce que ce sont tous des voleurs qui ont attrapé des propriétés, qui n'ont rien à faire là, etc. » Donc un texte d'une agressivité incroyable que, évidemment, moi j'ai voulu l'interpréter comme une intimidation préélectorale et non pas comme un projet qui allait vraiment se réaliser. Et beaucoup de personnes ont intentionnellement donné cette interprétation, c'est-à-dire ont donné peu d'importance à ces intimidations pour pas entrer justement dans ce jeu du revanchisme en disant bon, c'est des paroles, mais c'est pas encore des faits. Mais disons, il y a quand même un petit doute sur comment vont se comporter ces gens de l'Alliance libérale une fois qu'ils auront la sensation qu'ils sont au pouvoir. Maintenant, il faut aussi voir cette population du Nicaragua. Il y a donc 40% qui a voté pour le Front sandiniste. C'est un pourcentage qui se maintient, je pense, une partie de la population qui s'identifie au sandinisme, qui ne bouge pas, hein, qui reste constante.
C'était déjà le résultat des élections avec
Chamorro. C'était le résultat avec Chamorro. Et je pense que du temps de la révolution, il y avait effectivement 40% de la population qui était identifiée au projet et qui se disait sandiniste. Il n'y a jamais eu plus. Mais il n'y a jamais eu beaucoup moins, ce qui est, pour un parti d'opposition de gauche en Amérique latine, extrêmement important. Et de plus, un parti qui n'est pas divisé fondamentalement, hein, qui est resté uni. Donc il y a eu cette tentative de créer un deuxième parti sandiniste qui, même si c'est des personnes qui ont le respect de beaucoup de gens, et que le Front sandiniste et ses dirigeants actuels subissent beaucoup de critiques. On critique leur autoritarisme, on critique leur programme économique qui n'est pas vraiment révolutionnaire, on critique le style de la campagne, etc. Et les gens veulent rester dans le parti et le changer depuis l'intérieur et ne veulent pas de la division du parti. Et ça, je pense que c'est un atout extraordinaire que les sandinistes vont avoir pour être maintenant dans l'opposition. De plus, ils ont gagné un certain nombre de mairies, un certain nombre de chefs-lieux, de départements. Bon, je n'ai pas les derniers chiffres, mais disons qu'une partie des villes secondaires du pays seront effectivement dirigées par des sandinistes, comme Esteli, León. Bon, Matagalpa était sur le ballon. Je pense que finalement, ça va rester aux libéraux, mais il y avait une bataille extrêmement serrée. Il y a maintenant la bataille pour Managua entre les deux candidats. Évidemment, si Managua pouvait passer aux sandinistes, ça leur donnerait aussi beaucoup de poids politique. Et puis une série d'autres villes. Et puis un nombre aussi extrêmement important de petites mairies. Donc chaque département comporte entre 20 à 40 petites mairies, comme ici. Et là, il y en a aussi un nombre important, plus important qu'en 1990, qui passe aux mains des sandinistes. Donc je pense qu'à partir du pouvoir local et du pouvoir dans certains départements, il y aura vraiment la possibilité, disons, de réaliser un certain nombre de réformes, de projets sociaux, bon, dans un contexte qui va rester extrêmement difficile, parce que même pendant la campagne électorale, aucun parti s'imaginait qu'il échapperait, disons, au contrôle du FMI, de la Banque mondiale et au néolibéralisme, etc. Ce que le Front sandiniste proposait, c'était, dans ce contexte, c'était le néolibéralisme et le FMI, avec des mesures sociales, avec des filets sociaux. Mais disons, ce n'était pas du tout un programme qui remettait en question, justement, ce type de soumission à l'ordre international ou de respect de la propriété, etc.
Très concrètement, Suzanne, ça voudrait dire quoi pour un simple citoyen, pour une famille, par exemple, de la campagne? D'avoir les uns ou les autres au pouvoir, ça risque de changer quoi, très concrètement?
Alors, par exemple, concrètement, l'Alliance libérale a, par exemple, menacé d'éradiquer complètement le sandinisme dans ses expressions qui subsistent, notamment la réforme agraire. Donc il y a un certain nombre de paysans, même un grand nombre de paysans qui ont obtenu des terres de la réforme agraire Et au niveau des discours tenus par les libéraux, ça a été « nous allons récupérer ces terres, les rendre à leurs anciens propriétaires, qui étaient les somodistes, qui sont les amis de l'ancien dictateur, qui sont les alliés naturels de l'Alliance libérale ». Donc il y a un certain nombre de... Il y a beaucoup de gens qui vont se sentir menacés déjà par rapport au lopin de terre qu'ils cultivent depuis quelques années. Mais c'est difficile de savoir ce qu'ils vont vraiment faire, parce qu'en même temps, ils ont eu tout un discours vers la fin de leur campagne. Ils avaient un double discours. Ils avaient un discours anti-sandiniste extrêmement agressif, et puis un discours « nous sommes pour les pauvres, nous allons faire votre bien ». Il y avait des spots avec des couchers de soleil et des paysans en train de semer dans leurs champs, qui étaient pratiquement interchangeables pour tous les partis. Tous les partis prétendaient faire le bien des pauvres et le bien des gens, et caresser les enfants et l'éducation et la santé, etc. Et puis parallèlement à ça, il y avait des spots extrêmement agressifs qui étaient en fait uniquement là pour dénoncer les sandinistes et pour dénoncer Daniel Ortega. Ce monsieur qui était un militaire agressif, qui a dirigé la révolution sandiniste, qui comportait des aspects difficiles comme le rationnement, comme une certaine censure de la presse, comme le recrutement pour le service militaire. Ce monsieur qui apparaît maintenant comme un monsieur très gentil, qui est tout vêtu de blanc et qui a un discours très chrétien, eh bien, c'est une vipère qui va se réveiller et qui va vous mordre. Enfin, il y avait un discours très, très, très... très violent, en fait, contre les sandinistes en général et contre le candidat à la présidence. Donc je trouve difficile de savoir exactement quel va être le comportement effectif de l'Alliance libérale quand il sera vraiment au pouvoir. Mais beaucoup de gens ont peur, et je pense qu'il y a des raisons d'avoir peur et de se préparer effectivement au pire. Il pourrait y avoir renaissance de groupes armés, style escadron de la mort. En tout cas, c'est des menaces qui ont été proférées. Il pourrait y avoir des menaces très sérieuses pour saborder ce qui reste de santé et d'éducation. Et notamment, les femmes sont très inquiètes par rapport à la santé, parce qu'il y a quand même eu, sous le gouvernement de Violeta Chamorro, certaines ouvertures, certaines collaborations possibles avec le ministère de la Santé dans certaines régions, une ouverture au problème de la contraception, de la santé des femmes, etc. Et les groupes de femmes ont peur de cette reprise en main par l'Alliance libérale, qui a déjà décrété que tous les centres féministes allaient être fermés, que toutes l'éducation sexuelle allait être supprimée, le petit peu qu'il y en a, c'est déjà pas beaucoup. Donc ça allait être un retour à la tradition encore plus fort que ce qui a été vécu sous le gouvernement de Madame Chamorro. Donc beaucoup de gens ont peur en ce moment de ce qui va se passer. Et ce qui s'est passé dans les élections ne fait qu'augmenter cette peur, évidemment.
Alors bon, je pense qu'on aura par toi de temps en temps des nouvelles, parce que tu restes tout le temps en contact. C'est important pour, par exemple, les groupes de femmes qui vous ont invité pendant ce moment-là, de rester en permanence en contact avec vous. Est-ce qu'elles sentent qu'à un moment ou un autre, elles en parlent déjà maintenant, avoir besoin d'un soutien particulier?
Alors je pense que ces réseaux existent, et qu'effectivement nous serons peut-être appelés à mener ici des actions de solidarité, ou en tout cas de faire savoir ce qui se passe vraiment, parce que donc en ce moment, et je pense que jusqu'à la fin du mois, il y a cette situation d'expectative, et puis ce sera donc fin janvier ou début janvier, je ne sais pas, que le nouveau gouvernement entrera visiblement en fonction, et là je pense qu'il faudra être extrêmement attentif à ce qui se passe. Parce qu'il risque donc d'y avoir des moments extrêmement difficiles.
Es algo tan bonito, eso es tan bello, que es muy difícil que lo olvides.
Suzanne, je te remercie infiniment d'être venue donc nous parler de ce qui s'est passé là-bas. Je crois que c'est important pour nous parce que effectivement, ce qu'on découvre dans les journaux est souvent tellement élémentaire et on voit bien qu'il est facile, même pour un journal qui prétend, comme le Courrier, nous donner les informations les plus justes sur les luttes de base. Il dépend évidemment des agences de presse, etc. Et dans ces moments-là, c'est difficile de vérifier. Est-ce qu'on vous a pas demandé ou t'as pas proposé de faire des articles à partir de ce que tu avais vu, par exemple?
Tout à fait, je vais essayer d'écrire en tout cas une lettre de lecteur pour le Courrier, mais je veux quand même dire que le Courrier a publié notamment les protestations de la délégation suisse et qu'il y a eu tout un effort qui était fait justement par différentes personnes pour amener des éléments d'information plus réels, plus objectifs. Là, je me référais simplement donc au
premier article.
Au premier article, mais après, il y a eu toute une série d'articles qui reflétaient bien la situation. Et moi-même, je compte écrire un petit témoignage justement sur mon expérience d'observatrice engañada, comment on dit ça
roulée,
en français. Roulée, voilà.
Une conclusion à nous faire partager, Suzanne?
Eh bien, la conclusion, qu'est-ce que je pourrais bien raconter?
Non, si elle s'impose. Ce qui te préoccupe surtout à l'heure actuelle, c'est ta réflexion sur à quoi ça sert les observateurs, c'est ça, j'ai bien compris.
Disons, bon, ça me
préoccupe. Ou c'est l'avenir du Nicaragua.
C'est plutôt l'avenir du Nicaragua. C'est-à-dire que moi, ça me fend le cœur de me dire que des gens qui ont déjà tellement donné, qui ont déjà tellement lutté, au lieu d'aller vers un petit mieux ou même vers un statu quo de leur situation antérieure, qui était déjà très, très difficile, vont aller vers quelque chose qui va être pire. Ça, je pense que c'est indéniable que ça va être pire que les 6 dernières années. Alors maintenant, il y a encore toute la marge, ça va être peut-être légèrement pire ou bien beaucoup, beaucoup plus affreux. Et je pense que c'est des gens qui ont toujours besoin de notre soutien, qu'on ne les oublie pas parce qu'ils font très rarement la une des médias. Et je pense qu'il y a une chose qu'il faut souligner, c'est qu'il y a un désir de paix très très profond dans ce peuple. C'est pour ça que je reste relativement optimiste. Quand on a pu lire justement toutes les menaces qui étaient formulées par les libéraux ou même par ces groupes armés, toute cette envie en fait de créer un conflit à l'intérieur de la population. Moi-même, donc, dans tout le mois que j'ai passé au Nicaragua, donc avant la semaine des élections, j'ai parlé avec énormément de gens. Et partout, quelle que soit l'opinion politique des gens, en fait, il y a ce profond désir de ne pas retourner à un conflit entre Nicaraguayens, de ne pas alimenter ce type d'agressivité, de ne pas alimenter la revanche. Et ça, je pense que c'est extrêmement important, parce que c'est une démarche aussi qui coûte à beaucoup de gens, de tendre la main vraiment à la famille d'un contrat qui t'a assassiné une partie de ta famille, par exemple. Et ça, c'est la volonté politique, je pense, de beaucoup de gens. Et ça, c'est quelque chose de très, très, très précieux qui mérite, je pense, tout notre appui. Parce que c'est une démarche de paix en profondeur. Et quand on voit ce qui se passe justement dans une partie de l'Afrique où justement des conflits comme ça entre deux groupes de la population d'un même pays sont alimentés, sont mis en épingle et arrivent à des catastrophes, je pense que ce désir de paix après tant d'années de guerre qu'il y a au Nicaragua, c'est quelque chose de très important et qu'il faut absolument soutenir tous ces efforts.
Merci Suzanne, et pour d'autres nouvelles sur Nicaragua, à une prochaine fois.
Si la cumbia se vistiera de luto, solamente que se muere el cumbión. Si la cumbia llorara como vela, solamente que se muere el cumbión. Si la cumbia llorara su pena, solamente que se muere el cumbión. Si la cumbia no tiene cuerpo, si la cumbia no tiene corazón. Si la cumbia no tiene cuerpo, si la corazón, ni tiene cuerpo, ni tiene corazón, ni tiene cuerpo, ni tiene corazón, ni tiene cuerpo, ni tiene corazón.
Remue Ménage, c'est terminé pour aujourd'hui. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour parler musique, musique baroque, musique contemporaine, des choix de rencontres en différents styles de musique avec une musicienne magnifique, Chiara Bankin, et qui dirige l'orchestre 415 et qui nous parlera de la rencontre de ces différents types de musique. Et dans quelques instants, eh bien, les informels de Radio Pleine Lune. Ménage et remue-ménage sur les ondes d'Ondes Femmes, Radio Zone 93.8. Et c'est la lune qui monte lentement dans vos oreilles après cette chanson de Billie Holiday.
I fell in love with you the first time I looked into them eyes. And you have a sad little cute way of flirting with them eyes. They make me feel so happy. They make me feel so blue. I'm falling, I'm stalling. In a great big way for you. My heart is jumping. You started something. You'd better look out, little brown eyes, if you're wise. They sparkle, they bubble. They're gonna get you in a whole lot of trouble. Oh, baby, they're nice. I fell in love with you the first time I looked into. And you have a sad little cute way of flirting with. My heart is jumping, you started something. You'd better look out, little brown eyes, if you're wise. Sparkle, bubble, get you in a whole lot of trouble. I'm looking for the boy with the wistful eyes.
Bonsoir, Radio Pleine Lune 93.8 MHz, Ondes Femmes, Radio Zone, le remue-ménage s'estompe dans le studio et c'est la lune qui monte dans vos oreilles comme tous les mercredis à partir de 18h30. C'est la pleine lune sur 93.8 MHz. Je vous rappelle notre nouveau numéro de téléphone, le 450 40 51 41 059 depuis la Suisse et notre adresse Ondes Femmes, Radio Zone, 7 boulevard Karl Vogt, 1205 Genève. Au programme dans quelques instants, les informels, les nouvelles de la pleine lune. Et puis Marjolaine vous ouvre son cœur, un cœur gros comme ça. Elle vous parlera de ses rencontres, de ses coups de cœur, des différentes manifestations culturelles, théâtre, cinéma, concerts, expositions qu'elle a aimées, qu'elle a vues, les différentes rencontres qu'elle a faites. Dans quelques instants, c'est les nouvelles. Radio Pleine Lune, 93.8 MHz, onde femme, Radio Zone, nos nouvelles. Au Soudan, le Parlement a introduit une ségrégation sexuelle très dure. Il a adopté un décret prévoyant la ségrégation stricte entre hommes et femmes dans les lieux publics. Un rideau séparera désormais les messieurs des dames dans les cinémas et les théâtres, ainsi que dans les différents moyens de communication. Dans les différents moyens de transport. En Inde, s'est tenu à Bombay un meeting des femmes répudiées qui fut un grand succès. Ce fut une réunion qui sortait de l'ordinaire, une réunion des femmes sans mari, organisée par différents groupes féminins et féministes. Il y avait là des veuves et les paritiaktas, comme on les appelle, les épouses répudiées par leurs conjoints, issues pour la plupart de la classe moyenne inférieure et de la classe ouvrière. Le but de cette réunion était de toutes les regrouper, de leur faire prendre conscience de leurs droits et de rédiger une pétition présentant leurs exigences et à l'adresse du gouvernement. Les organisatrices avaient sous-estimé le nombre de participantes, les couloirs étaient pleins et on a dû installer des micros et pour que tous puissent entendre partout. La plupart sont venus témoigner. Une femme, par exemple, a parlé de sa situation. « Mon mari est mort », a-t-elle dit. « Il y a 4 ans, j'ai 5 enfants et ma belle-mère m'a chassée de la maison. » Ce sont des situations comme ça qui ont été décrites lors de cette réunion. Et ce qui est une grande nouveauté pour l'Inde, où il fut un temps où il était honteux d'être veuve. Les femmes étaient tondues et n'avaient pas le droit de sortir de chez elles. Aujourd'hui, une veuve est mieux considérée qu'une femme répudiée par son mari. Ainsi, une de ces femmes répudiées, les paritiaktas, comme on les appelle, parle de la vie après le départ de son mari qu'il a quitté pour une autre. « Je n'ai pas de carte de rationnement. Chaque fois que je vais au bureau de distribution des vivres, ils exigent une demande signée du mari. Quand je leur dis que je n'ai pas de mari, ils rétorquent. Mais c'est pas possible, puisque vous avez des enfants. » Outre le représentant du gouvernement sur l'estrade et les quelques activistes et employés masculins, il n'y avait pratiquement aucun homme dans l'assistance. Les hommes le semblent considérer comme acquis que la situation des femmes sans mari est un problème totalement féminin. En Israël, décision aberrante de la Cour suprême de Jérusalem sur le problème de la procréation artificielle. La Cour suprême vient d'autoriser une femme divorcée à disposer à son gré et contre la volonté de son ex-mari de 11 ovules congelés fécondés avec son sperme, un précédent qui fait le bonheur des cercles religieux. En vertu de cette décision, Ruti, souffrant de stérilité, a en droit donc d'agir à sa guise avec les ovules congelés fécondés avec le sperme de son ex-époux. Elle peut désormais, du moins théoriquement, confier ses 11 ovules à 11 mères porteuses différentes puisque la loi israélienne autorise le recours à une mère porteuse. Son ex-épouse serait à ce moment-là obligé de payer une pension alimentaire pour les enfants qu'il n'a jamais voulu. Le grand rabbin Lao s'est empressé d'applaudir cette décision. Le tribunal rabbinique, qui en Israël régit le droit familial au quotidien, n'aurait pas rêvé meilleure occasion de voir la Cour suprême condamner indirectement l'avortement. En Afghanistan, les talibans doivent lutter sur 3 fronts. Si Kaboul reste inaccessible aux troubles pro-gouvernementales, une offensive se prépare sur Herat et au nord de Jalalabad, les moines soldats reculeraient. En attendant, à Kaboul, toujours sous la loi des talibans, les femmes n'osent toujours pas sortir, mais certaines femmes ont quand même reçu la permission des talibans de pouvoir aller travailler et d'aller faire leurs courses. C'est le cas de 300 veuves parmi les plus pauvres de Kaboul qui peuvent à nouveau travailler. On rappelait la situation très dure des femmes, la plupart du temps sans mari, puisque le mari est parti à la guerre ou s'est fait tuer, et qui doivent donc, qui ont fait fonctionner toute l'activité de Kaboul pendant les années de guerre et qui aujourd'hui ont été violemment mises à l'écart de la société civile et économique. Pour beaucoup de veuves, cette situation devenait intolérable puisqu'elles n'avaient aucun homme sur qui elles pouvaient compter pour pouvoir faire les courses ou simplement pour pouvoir se nourrir. Au au Pakistan, des milliers de femmes militantes du parti fondamentaliste Jamaat Islami ont participé la semaine dernière à Karachi à une manifestation dans le cadre de la campagne menée contre la première ministre Benazir Bhutto. 5000 femmes, la plupart voilées, se sont regroupées devant la mausolée de Mohamed Ali Jinnah, fondateur du Pakistan, brandissant des banderoles, frappées des mots « Abba Bhutto » et « Nous voulons un système islamique ». En tout cas, pour une première partie du programme, elles ont gagné avec d'ailleurs les autres opposants, puisque le président du Pakistan vient de limoger Benazir Bhutto, accusé entre autres de corruption et peut-être même d'assassinat. En Algérie, le terrorisme et la terreur continuent. Aujourd'hui, ce sont des femmes et des enfants qui ont été frappés. 10 femmes et 3 enfants ont été égorgés près d'Alger. Les violences ne connaissent aucun répit à l'approche du référendum sur la révision constitutionnelle prévue le 28 novembre. 10 femmes, 3 enfants du village de Daouda, un village à une trentaine de kilomètres d'Alger, ont été égorgés dans la nuit de samedi à dimanche par un commando d'une vingtaine d'hommes. C'est le journal Liberté qui rapporte ces faits. Il n'explique cependant pas pourquoi ces femmes étaient visées,